Alors en effet, on va changer vraiment d'univers, puisqu'il a été question de chemin vers l'absolu. Donc comment je suis arrivé au consommateur? J'ai le souvenir tout simplement d'un conseil qu'il y a de très nombreuses années, c'était au début des années 80, m'avait donné Luc Boltanski. Alors, à l'époque, je travaillais un peu sociologie des intellectuels, de la culture, etc., ce que j'ai continué par la suite, mais il m'avait dit, bon, il te faudrait un objet un peu sale, un peu bizarre, bon. Alors, j'avais essayé de chercher comme ça, je me disais, bon, il y a des objets qui sont vraiment saturés, des groupes sociaux, tout ça, bon. Un mouvement, une association avec des militants, etc., c'est pas mal, et surtout si c'est pas partisan, parti politique, donc ça c'est le domaine de la sociologie politique classique, même si maintenant ils se mettent à annexer les associations, mais enfin bon, voilà. Les consommateurs, alors justement, j'y connaissais rien, mais ça avait à l'époque une saveur un peu nouvelle, enfin quand même, c'était la belle époque, encore la belle époque de Que Choisir, et l'INC, etc., enfin il y avait quand même autour des consommateurs, il me semblait qu'il y avait quelque chose. Alors, je ne suis pas arrivé à cet objet empirique avec mon objet construit. Ça a été une rencontre très laborieuse, et c'est de ce côté laborieux dont je ne fais finalement que sortir, j'espère, ces jours-ci, que je voudrais vous parler. Alors d'abord, le consommateur et la société de consommation sont par excellence des objets préconstruits. C'est-à-dire, si vous allez regarder ce qui se fait dans la littérature un peu savante, c'est un grand bazar, avec des études sur les pratiques de consommation, sur le marketing, sur la publicité, etc. Il y a des colloques où on se réunit. Alors, il y en a un qui travaille sur l'invention des nouveaux pneus chez Michelin, un autre, les stratégies publicitaires de L'Oréal, un autre sur un petit mouvement consommateur local dans...
Le Limousin.
Voilà. Et au fond, cet éclectisme convient à tout le monde, et c'est peut-être cette raison négative qui serait la plus forte, c'est-à-dire, au fond, ça fait exister un objet, et les gens, évidemment, celui qui travaille sur la publicité ne gêne pas celui qui travaille sur les mouvements de consommateurs, ces gens-là coexistent, ça fait des beaux colloques, il y en a aux États-Unis, il y en a en Scandinavie, j'avais un peu fréquenté ça autrefois, et je suis revenu ensuite déçu, en me disant que c'était pas là-bas que j'allais trouver mon objet, puisque j'avais... J'étais en même temps déjà un sociologue bourdieusien et que j'étais en quête d'objets. C'était un petit défi, c'est-à-dire est-ce que tu vas pouvoir trouver un objet à partir de ce foutoir. Alors, et c'est là peut-être que justement ma formation philosophique a pu être importante et être recyclée sur un terrain tout à fait inédit. Ça a été la question des catégories, qui est importante effectivement chez Bourdieu. Avant de m'interroger sur les mouvements consommateurs, etc., essayer de comprendre ce dont il s'agit, c'est-à-dire ce que c'est que cette catégorie, pourquoi les gens se reconnaissent là-dedans, qu'est-ce qu'ils y mettent, de quoi il est question. Voilà. Alors évidemment, je n'avais pas la naïveté de penser que j'allais trouver une définition scolastique dans le consommateur, c'est ceci et cela. Mais c'est sur le terrain, et donc je suis parti, effectivement, j'ai fait du terrain, notamment dans des associations de consommateurs, en essayant d'être à l'écoute, en essayant d'écouter ce que les gens disaient, quand ils disaient « moi, je défends les consommateurs » ou « j'appartiens à une association de consommateurs ». Alors, la définition de consommateur qui, au fond, arrange tout ce monde-là, c'est-à-dire les gens qui participent à ces colloques dont je parlais tout à l'heure, cette définition, elle est la suivante, c'est que le consommateur est cet individu quelconque qui consomme, et comme aujourd'hui il consomme beaucoup, ce consommateur, parce qu'on vit dans une société de consommation. Voilà. Donc les consommateurs sont liés à la société de consommation. Il y a des consommateurs parce qu'il y a une société où on consomme beaucoup. Voilà, les consommateurs consomment beaucoup. Donc ensuite, que font les gens ? Eh bien, ils vont débattre des conflits entre associations de consommateurs, entre l'État, alors ça c'est très État et société civile, bon, toutes ces espèces d'interrogations tout à fait préconstruites, sans s'interroger sur la question de ce qu'est le consommateur. Ce n'est pas une interrogation philosophique distinguée qui est en cause, c'est simplement la question de savoir mais quel est l'enjeu, de quoi il s'agit, pourquoi ces gens s'agitent, qu'est-ce qu'ils foutent là, enfin, qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est un objet préconstruit pour trois raisons. D'abord parce que il repose sur un objectivisme économiste, c'est-à-dire l'idée que le développement, l'essor des structures de la production et des distributions ont engendré par elles-mêmes, des consommateurs, hein, et que au fond il n'y a rien à expliquer puisque l'abondance des biens explique pourquoi les gens se pensent consommateurs ou sont devenus tout simplement consommateurs. Pas seulement ils se pensent, ils sont des consommateurs. Ensuite, c'est conçu d'une manière téléologique, c'est-à-dire on sait que la société d'abondance est le terme et l'achèvement d'un long mouvement historique que les historiens, en toute naïveté, font commencer alors au XIXe siècle, et puis ça remonte progressivement. Il y a des créneaux à occuper, donc peut-être que l'Antiquité elle-même, un jour, il y aura des sociologues, des historiens qui diront « Mais Rome, déjà, société de consommation, il y avait... » Oui, si les termes sont aussi flous, on peut... et si le seul critère, c'est un critère plus ou moins précis de vague d'abondance, voilà, d'opulence... Pourquoi pas? Et troisièmement, je dirais surtout, cette société dite de consommation, elle est conçue de façon dépolitisée, c'est-à-dire que l'essor des forces productives engendre une société qui impose une logique spécifique qui est celle, justement, de la société de consommation, logique spécifique qui efface, au fond, un certain nombre de clivages antérieurs ou qui, du moins, les suspend. Alors, bon, alors ça, il y a des nuances. Certains vont dire société de consommation, donc c'est plus une société de classe. D'autres vont dire oui, mais quand même, etc. Un exemple dont je parlerai peut-être tout à l'heure, Henri Lefebvre, sociologue marxiste, est pourtant aussi, en même temps, promoteur du concept de société de consommation. Bon, disons tout de suite, j'avance ma thèse, mais alors thèse que ça reproduit pas le mouvement, mon cheminement, hein, je donne tout de suite la thèse finale à laquelle je suis arrivé, je soutiens ceci, que la cause du consommateur doit son apparition à la constitution par des intellectuels de la société de consommation, de la notion de société de consommation, dans les années 60. Ensuite, dans les années 60-70, et ce n'est pas un hasard à mon avis, après mai 68, eh bien, la société de consommation est devenue un enjeu, et le consommateur aussi, sont devenus des enjeux, entre un pôle contestataire, je parlais d'Henri Lefebvre, et puis un pôle libéral. Et je ne vous surprendrai pas en vous disant que c'est finalement le pôle libéral qui l'a emporté. Alors, je vais revenir un peu assez brièvement sur mon propre travail de rupture avec le sens commun, puisque c'est un défi au fond que je me lance à moi-même, par du fait même de l'annonce que j'avais faite tout à fait au début du colloque, en disant la construction d'objets suppose rupture, etc. Donc au fond, avec quoi j'ai rompu? D'abord, effectivement, j'ai essayé d'emblée, dès que j'ai commencé à travailler, de faire une historicisation de la catégorie de consommateurs, en essayant de voir à quel moment c'était apparu. Bon, et je travaillais sur des associations du 19e siècle et du 20e. Le mot de consommateur est apparu à peu près à ce moment-là. Il y a eu des figures comme Charles Gide. Bon, cependant, ça n'a pas donné grand-chose. Ça a été des espèces de braises qui s'allumaient à droite à gauche, mais sans véritablement continuité. Et j'avais essayé de montrer que cette figure du consommateur se différenciait de celle du travailleur et de celle de la ménagère. Donc le consommateur ne serait ni le travailleur ni la ménagère. Néanmoins, je suis resté longtemps, notamment dans un article que j'avais publié, j'étais longtemps prisonnier encore dans une vision téléologique, c'est-à-dire que je fonctionnais dans la logique de la différenciation. C'est-à-dire que j'essayais de voir comment finalement cette figure est apparue, se détachant d'autres qui étaient plus ou moins concurrence. Donc j'ai eu longtemps une ligne scientifique constructiviste, au sens large, enfin en tout cas au sens méthodologique, mais peut-être pas tout à fait longtemps les moyens appropriés. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé par exemple sur les réclamations des consommateurs, je partais de la question, ces consommateurs, dans quel terrain je vais les trouver? Alors premièrement, par exemple, je vais les trouver lorsqu'ils vont réclamer dans des instances dédiées à ces fonctions-là. Il y avait à l'époque, une consultation juridique à l'Institut national de la consommation. J'ai fait des observations là-bas, j'ai même fait des statistiques, etc. Et donc, je me suis rendu compte à quel point les gens qui venaient là fonctionnaient selon le répertoire ordinaire. Ils ne venaient pas en tant que consommateurs. Il venait en tant que pauvre bougre ayant des pépins, ayant rencontré des pépins et essayant de voir où il pourrait s'adresser pour régler des problèmes qui ne relèvent évidemment pas d'un avocat, hein, qui relèvent de comme ça des gens qui peuvent les aider pour dire voilà comment je peux me faire rembourser mon fer à repasser, etc. Des pépins ou des emmerdements, si vous voulez, nous connaissons tous ça, le terme de litige de consommation, évidemment, apparaît comme une espèce de superstructure bureaucratique, juridico-bureaucratique, qui s'est constituée ensuite à partir de ça. Du fait du travail, effectivement, d'un certain nombre d'agents sociaux qui avaient intérêt à ça. Autre terrain, les militants. Et là, je me suis rendu compte à quel point les associations étaient hétérogènes, avec, à la rigueur, une association puriste qui est l'UFC Que Choisir, qui ne se consacre qu'au problème de la consommation, mais qui, après tout, n'est qu'une association parmi d'autres, puisque les autres associations ont toutes sortes d'engagements, logements, loisirs, écoles, enfin bon, c'est une espèce de bricolage qui est dénoncé d'une manière régulière par les critiques, justement, un certain nombre de critiques qui disent qu'est-ce que c'est que ça, ces associations, qu'est-ce qu'elles représentent. Alors justement, j'en étais à me poser le problème de la représentation et je m'appuyais sur les topos de Bourdieu concernant les représentants qui font exister les représentés, qui font exister la cause, et je m'appuyais aussi sur des travaux qui étaient tout à fait dans cette ligne, dont ceux de notre ami Charles Suot sur le mythe de la base, donc comment on fabrique des causes, etc., comment il y a des discours qui sont engendrés, qui permettent de donner à une certaine base une consistance qui était peut-être improbable. Bon. Enfin, au ministère, à l'époque, il y avait un ministère de la consommation, ensuite secrétariat d'État, je m'étais intéressé tout simplement au travail de production de la cause, et là, je ne peux que raccrocher mes propos à ceux qui ont été tenus hier par Vincent Dubois. C'est effectivement, qu'est-ce que c'est que ce travail? Qu'est-ce que font les gens? Qu'est-ce qu'ils font, quoi? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, Je suis resté en suspens comme ça pendant quelques années. En plus, j'ai fait d'autres choses, mais enfin, ça, c'est pas une excuse. Voilà. Donc, comment je suis passé de ce puzzle que je viens de décrire à un objet construit ? Eh bien, je dirais que j'ai suivi un mouvement en zigzag que je vais simplifier. Longtemps, j'avais considéré séparément deux lignes d'analyse. La première concernait la catégorie de consommateurs et tout ce qui était associé, des institutions, des associations, le droit, etc. Tout ça fonctionnait. Bon. Et l'autre ligne d'analyse, c'était la critique de la société de consommation. Alors, c'est pas celle que j'ai travaillée en premier, parce que j'ai toujours le temps, je verrai, et puis je suis un plus ou moins spécialiste de l'étude des discours, donc je ferai ça au dernier moment, je verrai comment tout ça fonctionne, qui dit quoi, etc. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, je pense que cet objet a été construit quand ces deux lignes d'analyse, j'ai réussi à les combiner. Voilà. Donc, le moment 1, ce qui n'est pas exactement le moment 1 dans chronologiquement, mais enfin, je l'appellerai comme ça pour la nécessité de l'exposer. Le moment 1, c'est le travail sur les représentations savantes à travers l'analyse du rôle des intellectuels qui, je pense, était beaucoup plus important que je ne l'avais pensé. Je dirais que la critique de la société de consommation, c'est du moins la thèse que je soutiens, est une critique constitutive de son objet. Donc nous n'avons pas un objet qu'on se met à critiquer, nous avons une critique qui fait exister l'objet qu'elle critique. Voilà. Dans cette critique de la société de consommation, le consommateur est tenu pour aliéner. Donc ça, c'est la première donnée, la prééminence d'un discours critique. Le consommateur existe, mais il existe à l'état aliéné. Donc il s'agit justement de le désaliéner. Alors j'ai analysé, évidemment, les producteurs de ces discours, où j'ai distingué trois catégories principales. Des philosophes de l'aliénation, des sociologues de la nouvelle classe ouvrière, et enfin, ce que j'appelle des herméneutes de la quotidienneté, c'est-à-dire des spécialistes du discours savant libre, si j'ose dire, sur les choses, le monde, etc. Hein, Par exemple, j'ai nommé Henri Lefebvre. Jean Baudrillard, évidemment, est une personne importante, un herméneute, Roland Barthes, etc. Bon, donc il s'agit d'une histoire courte, hein. C'est dans les années 60, donc ça n'a rien à voir avec ce mouvement très long dont parlent les historiens. Une histoire courte, c'est après 68 que se cristallise un débat entre une vision négative critique du consommateur et une vision optimiste d'un agent économique qui trouve dans une offre abondante les moyens de son épanouissement. Voilà, donc, évidemment, ensuite, j'ai vu que le débat politique, idéologique, était structuré par ce conflit intellectuel. Au cours des années 70-80, des hommes politiques, des journalistes, des hauts fonctionnaires, des juristes, etc., se sont mobilisés et donc ont... fait exister le débat et voilà. Et alors oui, il se trouve que expérimentalement c'est intéressant cette période puisque nous avons eu une alternance politique, comme vous le savez, c'est-à-dire solution de gauche, solution de droite. Bon, d'abord ça a été la solution de droite. Les libéraux ont pris tout à fait au sérieux cette critique de la société de consommation, ont élaboré un certain nombre de dispositifs administratifs et juridiques. Ensuite, le pouvoir socialiste, qui arrivait avec, c'est comme ça chez les socialistes, c'est souvent comme ça, avec des discours marxisants, très critiques, etc. Et puis ensuite, ils se sont rabattus sur une ligne qui était déjà annoncée avant eux par les libéraux. Donc le moment 2, c'est celui... Ça a joué un grand rôle pour moi, ça a été l'analyse du droit de la consommation, donc ce qui s'est élaboré dans la période 83-93. Je parlais des socialistes, ils avaient au moins dans les textes, une vision étatiste, collectiviste, si vous voulez, qui aurait consisté à constituer les consommateurs d'un côté et puis le monde économique, enfin les entreprises d'un autre côté, comme des partenaires liés par des accords collectifs sur le modèle des accords collectifs dans le domaine de l'entreprise, entre salariés et patrons. Donc il y aurait eu des accords contraignants où les consommateurs et les consommateurs auraient dit, voilà, il nous faut, je ne sais pas, produire des lave-linges avec telle et telle caractéristique, on produit ça, et les entreprises qui ne respectent pas ça, voilà. Il y avait un certain nombre de dispositions qui étaient envisagées de cette façon-là. Et, on va partir de 83 à peu près, je n'ai pas fait une datation précise, mais enfin, tout ça, c'est délité. Et on en est revenu à une vision où il ne s'agissait plus de refonder, de fonder un nouveau droit qui serait le droit de la consommation, mais tout simplement de codifier le droit préexistant. Néanmoins, cette codification, elle est intéressante parce que elle a été placée, elle a donné une cohérence à un certain nombre de valeurs qui sont celles du néolibéralisme, c'est-à-dire la prééminence d'un ordre public économique. C'est une notion actuelle qui doit beaucoup au cadre européen, l'ordre public économique qui concerne essentiellement le fonctionnement concurrentiel du marché. Donc il s'agit d'instituer, de garantir une concurrence libre et non faussée. Donc le droit de la consommation est une pièce, est simplement une pièce. Alors ça fonctionne de manière intéressante, c'est-à-dire selon les cas, on peut dire il y a un droit de la consommation et puis voilà, il assure les prérogatives du consommateur, ou bien on peut dire attention, le droit de la consommation n'est qu'une partie du droit du marché avec l'autre volet qui est le droit de la concurrence. Voilà. C'est deux aspects. Les libéraux ont fait advenir, au fond, une nouvelle figure sociale qui est l'individu doté d'une capacité de choisir. Donc il s'agit pour le droit de garantir cette capacité de choisir au point de remettre en cause la sacralité de la notion civiliste de contrat. C'est une démarche, au fond, qui est assez audacieuse, mais qui n'est pas faite, évidemment, pour les beaux yeux du consommateur, qui est faite essentiellement dans un objectif économique ambitieux, qui est celle de la régulation d'un marché où les partenaires doivent être dotés des moyens de faire prévaloir leurs intérêts. Voilà. Alors, pour illustrer ça, avant que le droit de la consommation ne prévale, vous aviez deux types de griefs que les consommateurs pouvaient mettre en avant. C'était celui, d'une part, les vis cachés. Les vis cachés, c'est-à-dire vous découvrez que votre machine à laver a des vis cachés. Et l'autre, c'est les vices de consentement, c'est-à-dire vous montrer que on vous a forcé à acheter ça ou qu'on vous a caché des choses, etc., etc. Donc, dans l'état antérieur, essentiellement l'état contractuel pur, le bon père de famille qu'était censé être le consommateur, un bon père de famille, c'est une notion juridique, devait prouver, il avait la charge de la preuve, il devait prouver qu'il y avait ces vices en question. Désormais, c'est d'une autre nature que sont les relations. Ce sont des relations de coopération entre un professionnel, c'est-à-dire celui qui sait, et celui qui doit avoir la connaissance des vices cachés. Il peut pas dire, le professionnel ne peut pas dire, ah, je savais pas, il y avait des vices cachés. Il doit le savoir. C'est une obligation dite irréfragable de connaissance, le professionnel. Mais alors, en même temps, c'est intéressant parce qu'on ne l'appelle plus, on ne le désigne plus, par l'intérêt, notamment l'intérêt économique, le profit qu'il peut tirer de la relation contractuelle, on le désigne par cet attribut qu'est le savoir. Et cet homme, vous pouvez trouver auprès de lui conseil, il a une obligation de conseil, de renseignement, etc. Et il doit tenir compte aussi des usages réels, c'est-à-dire que il peut pas vous vendre une machine à laver en vous laissant croire que vous allez avec ça des bulles ou de l'orgue, etc. Non, il faut que ça soit adapté aux usages réels. Voilà. Donc il s'agit de substituer un marché au marché idéal. C'est-à-dire substituer au marché idéal qui était celui des co-contractants égaux, c'était une fiction, tout le monde le sait, puisque l'acheteur et le vendeur n'étaient pas en position égale. Il s'agit donc de corriger cette vision, substituer à ce faux marché un marché réel marqué par un déséquilibre initial. Donc on peut dire d'une certaine manière que le droit de la consommation s'accompagne de la reconnaissance de ce que le marché prime le contrat. Alors je ne sais pas si des juristes ne seraient pas effrayés par mes propos, mais c'est du moins moi ce que j'ai cru comprendre des analyses longues et ennuyeuses que j'ai fait d'un certain nombre de textes, dont ceux de la Cour de cassation, etc. Bon. Alors, quels sont les enjeux ? Voilà, voilà au fond ce à quoi j'ai abouti. Vous voyez, un mouvement de contestation, société de consommation, etc. La réaction des libéraux, mais non, cette société de consommation, c'est au contraire une société où on peut s'épanouir, on peut choisir, etc. Les associations de consommateurs qui servent de garde-fous, d'alerte, ils lancent des alertes en disant attention, il y a des pneus qui sont dangereux ici et là, les pouvoirs publics qui tiennent compte de ça. Et bref, le marché se trouve régulé pour le bonheur de tous. Donc, quels sont les enjeux de cette construction d'objets ? Alors, je dirais je terminerai là-dessus. Premier point. C'est tout simplement la question de la légitimité du marché. Au fond, l'état antérieur fondé sur le contrat livrait les gens à un état de relative détresse. Au contraire, dans la conception nouvelle du marché qui garantit aux consommateurs un certain nombre de prérogatives comme le droit à l'information, le droit de rétractation aussi. Vous pouvez vous rétracter au bout d'un certain temps quand vous avez signé un contrat, le crédit. Voilà, il y a tout un ensemble de mesures qui sont prises. Donc l'autonomie, la qualité du consentement est visée par le droit. Et par là même, le marché se trouve doté d'une légitimité supérieure qu'il n'avait pas dans un état du droit civil où c'était au fond la jungle. Enfin, j'exagère parce qu'il y avait des garanties, mais voilà. Bon, que fait donc le sociologue par rapport aux agents qui parlent de consommation ? Alors, premièrement, il politise ce qui est naturalisé et dépolitisé. Notamment, il va à l'encontre de l'idée de la société de consommation comme une société post-classe. Ensuite, il montre que ce consommateur, qui est une création du droit du marché, est une illusion bien fondée. Et là, illusion bien fondée, je pense notamment aux travaux de Marie-France Garcia sur la production, au fond, d'un effectif par des dispositifs qui produisent un marché transparent, en l'occurrence le marché des fraises. C'est un peu un dispositif de cette nature. Ça produit, ça a des effets, sociaux. Enfin, le sociologue découvre que son objet a quelque chose à voir avec la possibilité même du regard sociologique, c'est-à-dire la sociologie procède par un travail de totalisation qui va à l'encontre de toutes les théories formalistes et anhistoriques des agents, notamment celle de l'agent économique. Donc voilà ce que l'on fait, mais en même temps que je dis ça, il faudrait dire que ce travail de totalisation n'a rien à voir avec le travail qu'opèrent des critiques de la société de consommation, qui eux aussi prétendaient totaliser en disant voilà, c'est la société capitaliste, etc. En même temps, c'est un travail très différent, puisque ce que les libéraux et leurs critiques radicaux avaient en commun, c'était précisément une autonomisation du consommateur. Le consommateur d'Henri Lefebvre, pour donner un nom, était un consommateur aussi abstrait, désincarné, que celui des libéraux. Ça c'est une idée qui me paraît importante aussi. C'est contre l'idée d'une alternative entre l'être social et le néant social, il y a ce que j'appellerais une option inédite, qui est celle d'une échelle ontologique. Il y a des degrés de réalité. Donc, on peut être tenté de dire ces consommateurs, c'est du vent. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est une tentation constante. Vous allez au ministère, dans les ministères, souvent on dit ça n'existe pas. Et les mêmes, le lendemain, vont vous dire mais quand même, les consommateurs ne vont pas être contents. Alors, on dit les consommateurs ne vont pas être contents, comme vous le direz, les parents d'élèves sont indignés. Les consommateurs ne sont pas contents. Donc, comment gérer intellectuellement cela? Je pense que cette idée d'échelle ontologique, qui peut être, alors je ne sais pas, je voudrais dialoguer sur ce point-là avec des philosophes, c'est ni l'être ni le néant, c'est entre les deux. Le consommateur, finalement, les consommateurs finissent par exister. Il y a des instances, des institutions, etc. Maintenant, si vous vous attendez à ce qu'il y ait une grève générale ou des manifestations massives dans la rue, il n'y en aura pas. On n'a jamais vu ça et on n'est pas prêt de le voir. Sauf, et c'est là peut-être qu'on peut ouvrir un espace de possible pour dire aussi qu'il ne faut pas non plus essentialiser, ça peut bouger. Alors ça peut bouger, notamment lorsque, par exemple, des problèmes de sécurité peuvent déboucher sur certaines mobilisations et lorsque des gens qu'on appelle des consommateurs peuvent se rendre compte que on a affaire à des problèmes plus généraux, comme par exemple dans le cas de l'agriculture avec tous les produits toxiques qui sont déversés. Le consommateur ne peut plus à ce moment-là se contenter d'être celui qui choisit raisonnablement en cédant des guides de que choisir. Les enjeux sont beaucoup plus vastes, donc tout ça peut bouger. Bon, voilà, j'ai terminé, j'espère
parfait,
pas trop déborder.